Pour rester informé tout au long de la journée, écoutez Radio Oméga. 103.9 Ouaga, 104.7 Bobo-Dioulasso. Radio Oméga, le journal. Les titres de l'actualité.
Abdoul Fattah Tiemtori.
Oméga, bonjour. Au menu de ce journal de la mi-journée, menace contre Oméga et ses journalistes. Le groupe de presse porte plainte. Il dénonce des actions d'intimidation suffisamment graves et attentatoires à la liberté d'expression. France 24 suspendu au Burkina. Décision du gouvernement ce lundi. Il reproche à la télévision française la diffusion il y a 2 semaines d'un entretien du chef d'ACMI, un groupe terroriste responsable de nombreuses attaques meurtrières au Sahel, y compris au Burkina. Le procès Vincent Dabilgo, on en parle également. L'ex-ministre a un nouvel avocat, mais il demande du temps pour prendre connaissance du dossier. L'audience a repris ce matin, mais a été à nouveau renvoyée. Et puis, notre invité de la rédaction invite l'ensemble des Burkinabés à prioriser le dialogue et à ne pas céder aux messages qui divisent. Le révérend pasteur Michael T. reconnaît la situation difficile que vit le pays, mais se dit optimiste. Vous l'entendrez à la fin de ce journal. Madame, Monsieur, voici le sommaire à développer dans un instant. Merci de nous choisir, de choisir Radio Oméga pour vous informer. Bonjour et bienvenue. La télévision France 24 suspendue au Burkina. La décision a été prise ce lundi par le gouvernement qui reproche à la chaîne française de la diffusion, la chaîne française d'information en continu, la diffusion il y a 2 semaines d'un entretien du chef d'ACMI, Al-Qaïda au Maghreb islamique. Le groupe est responsable de nombreuses attaques terroristes à travers le monde, y compris au Burkina, rappelle le porte-parole du gouvernement Jean-Emmanuel Ouédraogo. On en sait davantage avec Yaya Diomandé.
C'est une suspension sine die. La chaîne France 24 n'émettra plus sur le territoire burkinabé jusqu'à nouvel ordre. Le gouvernement reproche à la chaîne française d'avoir donné la parole au chef d'Al-Qaïda au Maghreb islamique ACMI, Abu Ubaïda Youssef al-Nabi. Le gouvernement a découvert il y a de cela 2 semaines une interview du chef d'Al-Qaïda au Maghreb islamique ACMI sur les antennes de France 24 du groupe France Média Monde. A regretté le gouvernement qui dit s'interroger sur l'éthique qui gouverne la pratique professionnelle du journalisme sur France 24. Jean-Emmanuel Ouédraogo, qui signe le communiqué, dit se désoler de voir que le chef d'une organisation terroriste comme ACMI est reconnu comme tel par l'ensemble de la communauté internationale puisse bénéficier des largesses éditoriales de France 24 pour s'exprimer longuement sur les antennes de la chaîne. Cette organisation, poursuit le communiqué, adepte d'un terrorisme djihadiste, est l'auteur de crimes odieux qui choquent la conscience humaine et qui ont fait des milliers de victimes à travers le monde. Dans la bande sahélo-saharienne et singulièrement au Burkina Faso, la violence aveugle et la barbarie terroriste contre les paisibles populations est principalement alimentée par cette organisation qui nourrit des desseins funestes pour notre pays et notre peuple que le gouvernement a la responsabilité de protéger, peut-on lire dans le communiqué. Le porte-parole du gouvernement explique qu'en ouvrant ses antennes au premier responsable d'ACMI, France 24 ne fait pas seulement office d'agence de communication pour ses terroristes, mais lui offre aussi un espace de légitimation des actions terroristes et des discours de haine véhiculés pour assouvir les visées maléfiques de cette organisation sur le Burkina Faso. Le gouvernement a donc décidé en toute responsabilité et au nom de l'intérêt supérieur de la nation, de la suspension sine die de la diffusion des programmes de France 24 sur l'ensemble du territoire national, a indiqué le communiqué.
Merci Yaya Diomandé. On se rappelle que le 21 mars dernier, la chaîne France 24 a été auditionnée pour la communication. Le conseil a affirmé avoir constaté des éléments qui pourraient porter atteinte à la loi, à l'éthique et à la déontologie dans le traitement d'une information sur la télévision. Diffusée sur la télévision France 24 le 22 février dernier. Il s'agissait, selon le CSC, du contenu de l'analyse du journaliste Wassim Nasr sur l'attaque terroriste de Déhou dans la province de l'Oudalan le 17 février. Avant cela, le 7 février, la même chaîne a été mise en demeure par le Conseil supérieur de la communication pour avoir diffusé une fausse information, selon l'instance, sur les femmes enlevées les 12 et 13 janvier à Arbinda, dans le nord du pays. En cause, la qualification des auteurs de l'enlèvement des femmes. Le la télévision France 24 évoquait des rebelles islamistes. Pour le CSC, cela peut fragiliser davantage la coexistence pacifique des religions et compromettre l'action des autorités burkinabènes dans leurs efforts de promotion de la cohésion sociale et de la lutte contre le terrorisme. Le groupe Omega Media, lui, a décidé de porter plainte contre les auteurs de menaces graves qui visent le groupe de presse, son promoteur et ses journalistes. Depuis plusieurs semaines, le groupe fait l'objet d'un déferlement de haine sans précédent sur les réseaux sociaux c'est ce qu'indique la direction donc de Omega Media et qui précise que des éléments sonores et vidéos au contenu particulièrement haineux et injurieux appelant au saccage et à l'incendie de ses installations et des domiciles de ses journalistes circulent sur la toile, jugeant ces menaces et actions d'intimidation suffisamment graves et attentatoires à la liberté d'expression. Omega Media a décidé, après concertation avec ses avocats, de porter plainte contre les auteurs de ces menaces. Omega Media qui tient pour responsables les auteurs des vidéos et audios proférant ces menaces ainsi que tous ceux qui les véhiculent. Et c'est l'occasion aussi de remercier tous nos confrères, mais aussi et surtout vous, auditeurs, téléspectateurs et lecteurs de Omega Media, qui êtes en notre compagnie en ce moment, qui nous restez fidèles et qui ne cessez de nous apporter votre soutien. Omega, la suite de l'actualité. Le procès de l'ancien ministre des Transports, Vincent Dabilgou, s'est rouvert dans la matinée de ce lundi, mais a été aussitôt renvoyé au 3 avril prochain. Le nouveau conseil du prévenu, Maître Idrassa Ouagré, a demandé un délai de 2 semaines pour prendre connaissance du dossier. Mardi dernier, on se rappelle, les avocats de l'accusé se sont déportés. Ils ont quitté l'audience, estimant que les droits de leurs clients ont été violés. Ils souhaitent aussi voir le tribunal correctionnel devant lequel est jugée cette affaire se dessaisir du dossier au profit de la Haute Cour de justice, seule juridiction selon eux compétente pour juger l'ancien ministre. Le parquet, qui ne s'est pas opposé à la demande de renvoi de l'avocat nouvellement constitué aujourd'hui, a jugé le délai trop long. C'est finalement la date du lundi prochain 3 avril qui a été retenue par le tribunal pour la reprise des débats. Vincent Dabilgou, on se rappelle, est poursuivi pour détournement de deniers publics, blanchiment de capitaux et financement occulte de partis politiques. On parle d'un autre litige. Cette fois-ci, on quitte le palais de justice. Les habitants de plusieurs quartiers, dont Garguin, étaient sous menace de déguerpissement dans un litige qui les opposait, qui les oppose à l'Office national des aménagements et de construction. Une menace qui ne sera pas mise en exécution suite à l'appel lancé au chef de l'État par les habitants. Dimanche dernier, le secrétaire général de l'Organisation nationale des syndicats libres, qui a pris une part active aux négociations, est allé annoncer la bonne nouvelle aux résidents. C'était sous le regard de notre reporter Joël Sauré. Il nous propose son compte-rendu.
Le ciment et la peinture peuvent enfin faire disparaître cette écriture rouge qui avait accéléré le rythme cardiaque des résidents de ce quartier à la sortie sud de Ouagadougou. Après plusieurs semaines d'insomnie face à une menace de déguerpissement et de démolition, ce sont des habitants à Liesse qui se sont réunis ce dimanche matin à Garguin. La bonne nouvelle du non-déguerpissement est annoncée par le secrétaire général de l'Organisation nationale des syndicats libres.
Une commission qui va s'assier pour pouvoir sortir un texte pour dire à partir de maintenant, il n'y a pas de déguerpissement à ce lieu de trucs de terrain qui sont ici. Donc, les raisons pour lesquelles on l'a rencontré vendredi avec quelques camarades, et j'ai dit, je vais venir vous apporter de vive voix ce que les autorités ont fait, ce qu'ils ont compris, ce qu'ils ont fait pour nous. Parce que cette affaire a été même portée directement au Conseil des ministres et ça a été discuté. Et je pense qu'il y a eu la sagesse du président même qui dit non. Il ne faut pas déguerpir les camarades.
La mine froissée, qui laissait entrevoir l'angoisse sur les visages, les jours précédents, fait place maintenant au visage rayonnant, d'où l'expression d'une joie pour cet habitant de Garguin qui se réjouit du fait que l'appel lancé au chef de l'État ait été entendu.
Ça réjouit le cœur, vous voyez que je souris. La dernière fois quand nous étions là, nous étions en train de nous soucier, il y avait quand même de quoi à s'inquiéter. Mais Dieu soit loué, le ministère a répondu favorablement à notre requête pour dire qu'il n'y aura plus question de démolition ni de déguerpissement, mais un PV serait dressé à notre faveur pour qu'ensemble nous puissions trouver un terrain d'entente et que ceux qui sont déjà installés, chacun va rester dans sa zone. Et ça, c'est déjà, ça nous réjouit le cœur, le fait qu'il n'y aura pas de démolition.
En rappel, la menace de déguerpissement de l'Office national des aménagements et de construction à Gargain concernait une centaine de ménages ayant acquis leurs parcelles auprès des agences immobilières à l'issue d'un bornage fait par les propriétaires terriens.
Joël Souré, à l'instant, un autre litige, probablement derrière les protagonistes, c'est sur le site minier de Sabrado, dans la zone de Moktedo. C'est plutôt une hache de guerre qui a été donc enterrée entre les patrons et les employés que le ministre en charge des mines est allé rencontrer, le ministre donc qui était dans la zone pour visiter les différents sites miniers. Il était sur deux sites notamment, d'abord sur le site minier de Bombouré SA, exploité par une multinationale canadienne dont l'exécution des travaux est assurée par des opérateurs miniers burkinabés, puis sur la mine de Sabrado, où les employés et les patrons étaient donc à couteau tiré. On voit tout cela avec Alice Kagoné.
Une route accidentée, des tempeurs qui creusent, des images spectaculaires à une centaine de kilomètres de Ouagadougou. Ici, nous sommes à la mine hors zone située à Bombouré, dans la commune rurale de Moktedo. Cette mine est exploitée par une multinationale canadienne qui sous-traite avec une société burkinabé. Le site de Bombouré a été visité par le ministre en charge des mines. Une visite d'encouragement, mais aussi pour féliciter des opérateurs miniers burkinabés qui s'impliquent. Simon-Pierre Boussy, ministre des Mines et des Carrières.
Mais dans le processus d'exploitation, la société est presque exploitée 100% par des burkinabés. Particulièrement, j'allais dire, l'opérateur minier est un national. Et il est le premier. Et pour nous, c'est intéressant de venir effectivement regarder cette situation, l'encourager, et pour que certainement d'autres sociétés puissent s'inspirer de l'exemple de Horizon.
À son arrivée sur le site, le ministre a eu droit à un exposé sur le fonctionnement de la mine. Le directeur général d'Orzone a saisi l'occasion pour saluer la démarche du ministre et parler du mode de fonctionnement de la mine. Ousseni Dera, directeur général d'Orzone.
Actuellement, on est en exploitation, donc c'est une mine à ciel ouvert. Et c'est une mine qui est exploitée et c'est une mine à faible teneur et qui est exploitée, comme l'a expliqué par monsieur le ministre, par essentiellement, on a utilisé une société nationale qui fait par exemple l'extraction, le transport et la disposition du minerai au niveau de l'usine.
A été mis sur la mine de Sabrado, localité située à 30 km de Bombouré. Ici, le quotidien de cette mine industrielle se résume à la récupération des minerais dans les sites souterrains et l'extraction industrielle d'or en usine. Ce sont plus de 1000 personnes qui y travaillent avec 6 tonnes d'or extraites par an. Cette mine d'or a été secouée le 8 mars dernier par un mouvement d'humeur des travailleurs. C'est l'une des raisons de la visite du ministre Simon-Pierre Boussim.
Comme vous le saviez, cette mine, depuis le 8 mars, a connu un certain nombre de crises. Nous avons demandé aux travailleurs et à la mine de s'entendre, trouver une issue favorable. Et nous avons pris donc des garanties dans ce sens. Il était de bon ton de venir encourager toutes les parties dans un esprit, j'allais dire, de sortie de crise qu'ils ont trouvé avec une conciliation qu'ils ont trouvée comme solution à cette crise.
Et à la question de savoir ce qui était reproché à la mine par les travailleurs, le responsable des affaires corporatives répond. Christian Félix Ouedraogo, directeur des affaires corporatives.
En fait, la raison était liée à la fin du contrat d'un employé. Et donc, c'était surtout ça qui était comme le principal élément.
Je suppose que je vais partir
avec. Monsieur le ministre, vous ne partirez certainement pas avec ce lingot d'or. Plutôt, laissez votre message dans ce livre d'or.
L'actualité internationale. La visite de la vice-présidente américaine Kamala Harris en Afrique. Elle est arrivée hier au Ghana. Première étape de sa visite d'une semaine sur le continent. Les États-Unis qui multiplient les approches vis-à-vis de l'Afrique dans le but de contrer la percée chinoise. Je suis très enthousiaste quant à l'avenir de l'Afrique, quant à l'impact de l'avenir de l'Afrique sur le reste du monde, y compris les États-Unis d'Amérique, a déclaré Kamala Harris avec les chefs d'État du Ghana, de la Tanzanie et de la Zambie. La vice-présidente américaine entend discuter de renforcement de la démocratie, de la bonne gouvernance, de promotion de la paix et de la sécurité, de construction d'une croissance économique à long terme et de renforcement de relations commerciales entre les États-Unis et l'Afrique.
La revue de presse.
Les quotidiens du jour s'expriment sur la lutte contre le terrorisme. Ensemble pour la victoire, titre à sa une Sidoya. Dans son Miria, le journal, le quotidien s'intéresse à la loi portant institution de comité de veille et de développement adoptée à l'unanimité samedi dernier. Et puis, dans l'Express du Faso, vous pourrez lire l'analyse du message du président de la transition Akaya à l'international. La visite de la vice-présidente américaine dont on parlait tout à l'heure intéresse également nos éditorialistes. Et on fait le point de tout cela avec Valérie Guéret qui assure la revue de presse aujourd'hui.
Message de Kaya ou le discours de refondation d'Ibrahim Traoré intéresse nos éditorialistes de l'Express du Faso. Comme un discours d'orientation politique, le président capitaine Ibrahim Traoré a fixé depuis Kaya le cap de ce qu'il entend faire pendant la transition pour son pays, le Burkina Faso et ses habitants. Le message de Kaya doit être alors compris comme le trajectoire à emprunter pour un Burkina Faso nouveau. En parlant toujours de sécurisation et développement du Burkina, l'implication des populations une nécessité, s'exclame le journal Le Quotidien. Notre confrère l'a toujours martelé. Si le terrorisme s'est gangréné au Burkina Faso, c'est parce que notre société n'était pas suffisamment organisée de sorte à créer un rempart à l'expansion du phénomène. Si on a du mal à les identifier, c'est parce que les informations font défaut. Un dispositif de renseignement efficace devrait être en mesure de détecter les mouvements suspects, opine ce journal. Donc ensemble pour la victoire, titre Sidoya à l'international, la mini tournée africaine de la vice-présidente américaine intéresse nos éditorialistes de ce jour. La semaine africaine de Kamala Harris barre à sa une l'observateur Palga. L'Obs qui se demande ce qui fait donc courir les États-Unis ces derniers temps. Pour le journal Le Pays, Washington veut tourner la page Trump. Et ce premier déplacement de la numéro 2 de la Maison-Blanche en Afrique est tout sauf anodin. Quand on voit les efforts inlassables du chef de la diplomatie américaine qui multiplie les déplacements en Afrique où il était encore la semaine dernière, plus précisément en Éthiopie et au Niger pour parler entre autres de paix, de développement et de sécurité, commente le journal des 1200 logements. Décidément, l'Amérique ne lâche plus le continent, s'exclame aujourd'hui au Faso. Ce journal trouve qu'entonner une haute à ce continent qu'on regarde toujours de haut à partir de l'Occident ou des États-Unis. Voilà un peu le message véhiculé par la vice-présidente des États-Unis à travers cette visite des trois pays. Mais ce team à la victoire du continent n'est pas aussi une approche plus originale de raffermir le partenariat avec l'Afrique, s'interroge aujourd'hui au Faso.
L'invité du jour. L'invité du jour.
L'entretien de ce journal, c'est avec le révérend Michael T. Il est le pasteur principal de l'église Centre International de Réveil. Et dans cet entretien qu'il a accordé à Omega Media, il invite l'ensemble des Burkinabés à prioriser le dialogue et à ne pas céder aux messages qui divisent. Il reconnaît que la situation sécuritaire actuelle au Burkina est critique, mais il se dit optimiste. Le Burkina sortira vainqueur de cette crise, dit Michael T, qui répond aux questions de Bruno Bayala.
Bonjour, Pasteur T.
Bonjour, bien-aimé.
La situation nationale aujourd'hui, qui est donc marquée par la crise sécuritaire, Déjà, vous, en tant que pasteur, dans vos différentes prédications, dans vos différentes prières, est-ce que vous avez vu venir donc la situation que traverse le Burkina depuis 2015?
De prime abord, on n'a pas nécessairement besoin d'être prophète. En tant qu'homme de Dieu, on a eu des perceptions. Il existe encore des enregistrements où certains événements ont été annoncés de notre part parce qu'on les a reçus de Dieu, avec des dates, avec des orientations précises. Mais on a diverses manières de travailler en tant qu'homme de Dieu. Certains ont envie de sortir ou peut-être le sont poussés à le faire pour divulguer certaines informations. Mais parfois, quand le pays est à fleur de peau, on n'a pas besoin parfois de sortir pour donner des choses aux gens qui vont parfois plus les troubler que leur donner de l'assurance. Voici pourquoi nos sorties qui ont été publiques ont été dans le sens d'encourager face à un avenir meilleur. Pour ce qui est du côté de l'interpellation au niveau des politiques, à notre niveau personnel, l'opportunité nous a été donnée d'avoir accès au cours de nos prières, de nos rencontres avec pas mal de personnes, y compris ceux qui sont placés en pouvoir dans cette saison dans laquelle nous nous trouvons. Et notre rôle, c'est de prier d'abord pour les autorités, en tant qu'hommes de Dieu. Et lorsqu'ils sont réceptifs, c'est les conseillers. Et à chaque fois que l'opportunité nous a été donnée, on a opéré dans ce cadre-là.
Vous, en tant qu'un homme spirituel, est-ce que cette situation qu'on traverse aujourd'hui serait donc une conséquence directe de tous les actes que le Burkinabé aurait donc posé par le passé, ou c'est une suite logique des événements qu'a connu le Burkina, notamment l'insurrection et autres?
Je pense que on ne peut pas attribuer de prime abord. En fait, ce serait comme dire c'est une espèce de châtiment et autres. Je trouve que c'est un faux fuyant et puis parfois c'est de l'immaturité spirituelle. En tant qu'homme de Dieu, de tout de suite dire ceci arrive parce que le pays a péché, parce que le peuple a péché. Et il y a des territoires qui ont beaucoup moins de mœurs que nous et qui sont en paix. Et il faut prendre en compte aussi le fait que la situation que vit le Burkina n'est pas uniquement concernant le Burkina, mais c'est régional, pour ne pas dire sous-régional. Alors, il ne faut pas aborder la chose comme un châtiment divin. Non, on peut l'aborder comme une défaillance de notre leadership en tant qu'humain. En tant que peuple, on a toujours des leaders. Et lorsqu'il y a un souci, il faut comprendre que parfois, il y a un problème au niveau du leadership. Il ne faut pas parfois s'en cacher. Mais ici, il faut prendre en compte que toutes ces choses, au final, doivent être prises en compte comme des interpellations. Ma Bible dit, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Dieu ne descend pas aux médias. Aujourd'hui, moi, je suis favorisé d'être avec vous à Omega. Dieu ne va pas venir sur la plateforme Omega pour parler. Mais il va nous donner des signaux pour dire, vous faites attention, le monde devient de plus en plus mauvais. Il y a des combats à relever aujourd'hui pour les générations à venir. Et en tant que leader, chacun doit assumer sa responsabilité, non seulement politique, mais aussi spirituelle, pour emmener nos nations et nos territoires vers de meilleurs horizons.
Alors aujourd'hui, il y a ce qu'on constate, c'est qu'il y a un groupe de personnes qui tuent, qui disent qu'elles tuent au nom de Allah, par exemple. Dans cette situation, quel devrait être le rôle même de ces leaders religieux là quand on entend ces messages sur les réseaux sociaux?
Je pense en toute honnêteté aujourd'hui que lorsqu'on fait lecture et appréciation de ce qui se passe dans notre pays, il est clair que ce n'est même plus de l'extrémisme religieux. On a fait le constat que des églises ont été attaquées, des mosquées ont été attaquées. Donc on ne peut pas attribuer cela aujourd'hui à des dérives même religieuses. C'est simplement des dérives humaines avec des intérêts qui sont clairement politique matérielle. Aujourd'hui, on ne peut pas se le cacher. Alors, on ne va pas vite faire de dire que c'est une tranche religieuse, qu'il y a des gens qui sont à la dérive et qui vont dans ce sens. Aujourd'hui, aucun leader religieux, que ce soit chrétien, musulman ou autre, ne peut se projeter de cette manière parce que c'est clair que ce qui se passe et ces gens-là sont ennemis de tout le monde.
Pasteur, on puisse atteindre cette victoire. Quelle est votre proposition? Quel est le message pour que le Burkina puisse en faire sortir de cette situation qui est due depuis 2015?
Et je crois pour ma part, et en tant que prophète, en tant que serviteur du Seigneur, qu'il y a une issue favorable et glorieuse pour le Burkina Faso. Il faut favoriser la paix et la cohésion, quel que soit le bord, quelles que soient nos idéologies personnelles. Et soit ce qui perd notre frustration, il faut mutualiser nos forces et notre énergie pour préserver là maintenant, parce que c'est la priorité, la paix, la sauvegarde de la nation, l'avenir des enfants. Il faut que toutes les forces, qu'elles soient les bords, s'il n'y a pas les cieux et la terre, s'il n'y a pas la nation, nous-mêmes, quelles que soient nos idéologies, quelles que soient nos partis pris, on n'a même plus l'espace pour s'exprimer. Il faut donc mutualiser les efforts. Que les gens puissent sincèrement penser à l'intérêt commun plutôt qu'à l'intérêt personnel. Parce que même Dieu intervient lorsque les hommes font la paix entre eux.
Merci à vous, Pasteur T. Michael, d'avoir répondu à nos questions.
Merci beaucoup pour le privilège que vous me faites d'être venu.
Et le journal se referme ici. Interview à l'instant de Michael T., pasteur, qui répondait aux questions de Bruno Bayala. Et on se dit à bientôt pour d'autres sessions d'information. Adama Konaté et Bernadette Pakmogda étaient à la réalisation. Yaya Diomandé au live Facebook. Et je laisse la place tout à l'heure à Yacouba Wilio pour le journal en langue Mori. Portez-vous bien, prenez soin de vous, prenez soin surtout de vos proches. C'est la meilleure façon de prendre soin de vous-même. Au revoir.
Radio Omega, l'info en direct.